Soyez bienvenus, nous sommes tous heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. Alors, au menu aujourd'hui, un mot, tout d'abord, retenez-le bien, Brexit, c'est-à-dire un mot néologisme, un mot valise, entre Britain et Exit, c'est-à-dire la possibilité, la perspective d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On se souvient qu'il y a quelques jours, David Cameron, le conservateur, l'a emporté largement, défiant en cela les sondages, l'a emporté, et il a promis aux Britanniques un référendum sur la sortie de l'Union européenne, un référendum qui pourrait avoir lieu l'année prochaine. Eh bien, nous sommes mis en quatre, ou plutôt en trois, avec Le Monde, RFI et TV5 Monde, pour convier un europhile. Il s'agit de Denis McShain. Merci d'être avec nous. Ancien ministre britannique des Affaires européennes, l'un des rares qui soit publiquement pour le maintien de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Merci d'être avec nous. Alors, on a beaucoup de questions à vous poser sur la situation politique du Royaume-Uni, sur cette perspective de sortie de l'Union européenne, avec Sophie Malibaud, donc de Radio France Internationale, et Christophe Ayat du Monde. Beaucoup de questions. Peut-être un mot. Comment la Grande-Bretagne va sortir de l'Union européenne? C'est une perspective, c'est une prophétie, ou peut-être c'est déjà une possible erreur?
J'aimerais bien que ce soit une erreur, mais ce que j'ai décrit dans cette livre, c'est le courant, le tributaire, si vous voulez, anti-européen, qui maintenant peut venir ensemble dans une confluence, et comme en France, en 2005, on n'attendait jamais que la France pro-européen, pays fondateur, le président Chirac, pro-européen, le parti socialiste, pro-européen, et nous voilà, la France a dit non à l'Europe, et tous les référendums, sept siècles sur l'Europe, les grands référendums, ont terminé dans un rejet de l'Europe. Donc, j'ai mes craintes.
Alors, on va faire connaissance avec vous, Denis McShain, et remise en perspective avec ce reportage.
Every day, here at London's Hammersmith Hospital, a battle of life is fought for babies who can't.
Denis McShain est un enfant de l'après-guerre mondiale, un fils du baby boom. Né à Glasgow en 1948, sa mère est irlandaise, son père polonais a fui le nazisme.
Les Allemands s'envolent vers l'Angleterre.
Autrement dit, il est le fruit de cette Europe à reconstruire. Une Europe unie et pacifique dont il deviendra plus tard le plus fervent défenseur. Notamment lorsqu'il était le ministre des Affaires européennes du premier ministre travailliste Tony Blair entre 2002 et 2005. Son dernier livre, Brexit, comment la Grande-Bretagne va quitter l'Europe, est un plaidoyer pro-européen. Il fustige l'attitude récente de l'actuel Premier ministre conservateur David Cameron, qui il y a peu affirmait
« La chose importante avec l'Europe, c'est d'avoir une vraie stratégie pour protéger la Grande-Bretagne. La meilleure solution serait d'ailleurs de renégocier les traités ou d'organiser un référendum pour que les Britanniques décident si oui ou non ils veulent rester dans l'Europe. »
L'Europe est devenue, pour la droite, voire l'extrême droite britannique, le bouc émissaire tout trouvé pour ressouder le vieux royaume de plus en plus désuni. La percée du Parti national écossais aux dernières élections législatives du 7 mai dernier n'a sans doute pas échappé à Denis McShain, lui l'écossais d'adoption. La chef du parti écossais, Nicola Sturgeon, ne cache plus ses aspirations indépendantistes.
Nous voulons convaincre que nous allons utiliser notre influence de manière positive et constructive pour constituer à l'avenir un gouvernement travailleur indépendant et libre. Notre programme est un manifeste contre l'austérité, c'est notre priorité.
Face à ce repli identitaire, Denis McShain reste un europhile convaincu, passé par la case France. Il aime par-dessus tout la langue de Molière, l'histoire et sa culture, qu'il connaît mieux que beaucoup de Français. Il a même publié une biographie de François Mitterrand.
On est tous pour l'Europe. Il y en a qui disent oui, et il y en a qui font non. On est tous pour la paix. Il y en a qui y vont vite, il y en a d'autres qui y vont lentement.
Ça tombe bien, de son pas alerte, Denis McShain œuvre aussi pour la paix sur le continent. Souhaitons-lui seulement à l'avenir de ne pas être obligé de demander la nationalité française pour pouvoir rester européen.
On n'en est évidemment pas là, mais attachement à la langue française et à la place en tout cas de votre pays à l'intérieur de l'Union européenne.
Absolument, et le cas échéant, si on part, j'aurais besoin d'un passeport, de rester citoyen de l'Union européenne, donc si la France peut m'aider, je vais Mais postulément de monde après François Hollande.
Ou l'Écosse, ou l'Irlande.
Je peux revenir sur
l'Irlande. Alors, beaucoup de questions, je vous le disais, avec mes collègues Sophie Malibaud et Christophe Ayat.
Oui, on est à quelques jours après les élections. Déjà, est-ce qu'il vous semble que Cameron est en train de revoir ses prétentions à la baisse? Est-ce qu'il est toujours question de négocier les traités, de toucher aux traités, de demander ça aux Européens?
Et notamment sur la libre circulation à l'intérieur de l'Union Européenne.
Non, je crois que la position de M. Cameron, il m'a dit une fois dans un vestiaire à la Chambre des communes, il y a 10 ans, on est tous nus, les conversations sont assez ouvertes à ce moment-là, que je suis beaucoup plus eurosceptique que tu imagines, Dennis. Et cette génération qui est sortie d'Oxford, Louis, le chancelier d'Exchequer, M. Osborne, les autres grands chefs du tourisme moderne, conservatisme moderne, ils étaient tous les petits fils de Margaret Thatcher jusqu'au moment qu'elle est devenue archi-anti-européen. Donc, dans la tripe, il ne croit pas à la vision DeLorean de l'Europe. Mais aussi, M. Cameron est chef de grand État. Il sait que ça va nuire tous les intérêts mondiaux du Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne. Donc, cyniquement, pour gagner les voix des électeurs UKIP anti-européens, il a donné
le premier référendum.
Voilà, l'UKIP a deux grandes demandes. D'abord un référendum, deuxièmement sortie de l'Union européenne. Monsieur Cameron leur a donné le premier. Il a gagné les élections. Maintenant, il va faire cyniquement marche arrière, je crois, et réduire au minimum ses demandes, passer à un référendum assez vite, probablement l'année prochaine, et tâcher de gagner un petit oui pour rester dedans. Oui. Sinon, c'est le chaos, c'est la catastrophe.
En cas de référendum, pourquoi Cameron va faire campagne?
Lui, si, il va obtenir un petit package. C'est déjà une fois discuté à Bruxelles, j'étais là la semaine dernière. On sait qu'on peut lui donner quelque chose. Des déclarations que dans un futur traité, après de 2019, l'Angleterre peut obtenir, il y a un préambule, dans le préambule du traité, on parle de l'union, je ne sais pas en français exactement, que l'union toujours plus proche des peuples européens. Mm-hmm. Monsieur Cameron et les droites anti-européens en Angleterre pensent que ça, c'est une insulte à l'identité britannique. Donc, on peut avoir un protocole, comme pour les Danois, les Irlandais, les autres pays, que ça n'applique pas aux Anglais. C'est sans importance. Mmh. On peut avoir déjà un accord sur ce qu'on a dit, le tourisme d'assistanat, c'est-à-dire les gens de pays pauvres qui venaient ici et aussi en Angleterre pour toucher à un part de cette assistance qu'on donne aux gens. On a déjà une réglementation de ces problèmes-là. Et une ou deux autres déclarations assez généralisées, mais pas changement de traité, et on ne touche pas à la libre circulation.
Et dans ces cas-là, vous pensez qu'il y aurait une solidarité gouvernementale? Il ne risque pas d'y avoir une rébellion au sein du clan conservateur?
Absolument. Parce que il a fait l'ancienne tactique, il a mis dans son nouveau conseil des ministres pas mal des gens, des conservateurs archi-heureux, sceptiques pour le garder tout près de lui. Mais on insiste déjà au parti conservateur, comme traditionnel dans les autres partis, d'avoir libre expression pendant la campagne. Mmh. Et M. Cameron a déjà annoncé qu'il va partir avant la fin de son mandat. Donc 2020, prochaine élection, on aura un nouveau premier ministre conservateur. Il a annoncé ça. Donc, tous ces successeurs possibles, eux, doivent décider quel sera mon profil sur la question de l'Europe. Je fais appel aux militants du parti qui sont pour la majorité anti-européens, appel aux députés conservateurs, donc il y a presque personne qui est ouvertement pro-européen, pour succéder à M. Cameron, ou je reste fidèle à M. Cameron pour garder l'unité du parti. Une grande question.
La Grande-Bretagne est membre de l'Union européenne, de la communauté, comme on disait à l'époque, depuis 42 ans. Est-ce qu'elle s'est vraiment sentie européenne? Est-ce qu'il y a un sentiment d'appartenance, ou c'était, comme à l'époque, l'appartenance à un marché commun, à une union commerciale et monétaire? Est-ce qu'il y a une adhésion, comme d'autres pays, notamment les pays créateurs, à cette Europe-là?
vraiment non. J'ai demandé à un grand ami, un de nos plus grands professeurs de l'histoire, comment on peut faire l'Angleterre un pays pro-européen. Très facile, Danny, c'était sa réponse. Organiser que l'Angleterre était envahie et occupée pendant 5 ans. Mm-hmm. Mais nous, non, on n'a jamais eu cette expérience. On avait toujours la Manche. On n'a pas une frontière, sauf en Irlande, commune avec l'Europe. Et l'argumentation était que l'Europe des années 50, 60, 70, 80 était économiquement deux fois plus dynamique de croissance pendant les Trente Glorieuses que les Anglais. Donc, il faut adhérer.
On est mieux seul qu'avec cette Europe-là, se dit-on en Grande-Bretagne. C'est sentiment.
Chez les jeunes, culturellement, il y a un pro-européanisme, je crois, mais sentir, par exemple, j'ai travaillé pendant des années en Suisse, je rentre en Suisse assez souvent, là-bas, je me sens en Europe, même si la Suisse n'adhère pas à l'Union européenne. Chez moi, je me sens Australie, Canada, les États-Unis, Angleterre, mais pas vraiment continental.
Et est-ce que c'est pas aussi la relation bilatérale entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui pêche? Parce qu'il y a ce couple franco-allemand qui est moteur de l'Europe. Est-ce que s'il y avait quelque chose de plus fort entre Allemands et Britanniques, on serait pas dans une autre situation?
Disons, Madame Thatcher était grande européenne. Elle a signé et battu pour l'acte unique. Elle a fait le premier discours demandant politique d'étranger et sécurité commun. Elle a soutenu Jacques Delors comme président. Donc, Tony Blair a fait un peu la même chose. Cherchant partenariat privilégié, je ne sais pas si c'est vrai. Logiquement, les Allemands, les Anglais sont beaucoup plus en commun philosophiquement, économiquement que la France et l'Allemagne. On n'entre pas trop dans l'histoire.
Par exemple, il n'y a pas d'Europe de la défense. C'est parce qu'il y a aussi un problème au niveau des relations entre Grande-Bretagne et Allemagne.
Mais non, je m'excuse. Qui a torpillé chaque fusion dans le secteur de la défense? Par exemple, fusionner EADS et Thales, Madame Merkel, qui bloque toute fusion des producteurs français et allemands sur la production des chars, des tanks, véhicules blindés, Madame Merkel. Elle est la plus protectionniste petite industrie d'armement imaginable. Nous, je crois, en Angleterre, on devrait avoir un Airbus industrie pour la défense. Et je crois que l'Angleterre est prête à entrer dedans. Mais franchement, c'est Berlin qui est le plus petite protectionniste et imaginable sur ce dossier.
On revient à ce référendum qui a lieu probablement dans un an. Est-ce que vous pensez que M. Cameron fera campagne pour le oui, c'est-à-dire pour rester à l'intérieur de l'Union européenne? Deuxièmement, comment les milieux d'affaires britanniques vont réagir alors que la City profite énormément, d'une certaine manière, de cette intégration de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne?
Sur la première question, les aides de M. Cameron et lui-même ont toujours dit prudemment, si M. Cameron n'obtient pas le deal qu'il souhaite, il ne sera pas pour faire campagne en faveur d'un oui. On sait que c'est totalement perdu. Moi, je ne le crois pas, parce que M. Cameron ne veut pas entrer dans l'histoire comme le premier ministre dans notre histoire qui quitte une énorme organisation intergouvernementale, qui est l'Union
comme
européenne.
Comme le premier pays qui sortirait de l'Union européenne, ça n'est jamais arrivé.
Mais pire que ça, c'est comme les Américains quittant les Nations Unies. L'Angleterre était toujours un pays qui aime les traités intergouvernementaux, qui préfère les réglementations par arbitration et les cours que par les armées et les forces militaires. Et ce qu'est l'Union européenne, ça a gardé la paix pendant 70 ans. L'OTAN était important, mais l'OTAN n'a jamais ouvert la frontière, créé un marché unique, etc. Donc, je ne crois pas que M. Cameron risque de ne pas être clair sur la nécessité de rester dedans.
Dans l'Union. Et les milieux d'affaires?
Les milieux d'affaires, c'est divisé parce que sur des années, le MEDEF, l'équivalent du MEDEF chez nous,
Donc les patrons.
Le patron publie des réponses. C'est l'Europe, c'est la super réglementation, c'est trop de paperasserie, ça bloque. Il y a des directives qui aident les syndicats, on n'aime pas le social. Et aussi, c'est le City qui paye pour UKIP. C'est les gens du City, pardon, UKIP, c'est le parti anti-mondiste, comme le Front National, archi-anti-européen. Donc le City est assez divisé. Et moi, j'ai fait pas mal de séminaires dans le City, j'ai invité un groupe européen, et largement, l'ambiance, ces derniers 10 ans, était anti-européen. Mais le moment venu, parce qu'il n'y a pas une seule banque américaine, asiatique, et 90% des banques au City sont des banques étrangères, qui peuvent fonctionner dans le grand marché de l'Union européenne, 2 milliards des consommateurs, sans être dedans.
Bien sûr.
Donc je pense que le bouton de panique, maintenant, est en train d'être poussé. Et j'espère que le City, qui a sponsorisé pas mal des mouvements anti-européens va maintenant faire campagne.
Quel est votre avis? Si la question était posée aujourd'hui en Grande-Bretagne, à votre avis, quelle serait la réaction de la population? Ce oui peut l'emporter, vous avez dit, peut l'emporter par accident.
C'est très difficile à dire. Moi, je veux croire que mes citoyens n'en sont pas si bêtes que de sortir. Mais quand je regarde les sondages, quand je lis la presse, quand je parle de
la presse est très hostile à l'Europe plutôt.
Totalement anti-européen. Et même après les élections, le Sunday Times, le grand journal de M. Murdoch, un papier assez responsable, le week-end passé, week-end qu'on a fêté le 70e anniversaire de la victoire sur les nazis, quel est le grand titre à la une? Cameron va lancer un blitz sur l'Europe. C'est très bien choisi, hein, journalistiquement parlant. Et aussi, le Daily Mail, lu par 7 millions de lecteurs, très bien création journalistique, mais archi anti-européen. Grande une que le gouverneur de Banque d'Angleterre blâme le manque de croissance en Angleterre et les suppressions des salaires sur la présence des immigrés européens chez nous. Donc, quand vous lisez tout ça, vous avez la chance de voter contre cette montre décrite par la presse. Je ne sais, honnêtement, je ne sais pas.
Et les travaillistes dont vous êtes, comment est-ce qu'ils vont se positionner? Parce que avant les élections, on ne les a pas énormément entendus sur l'Europe.
Oui, les travaillistes, depuis le départ de Blair, étaient assez silencieux. Ils avaient la politique sur l'Europe des trois sages. Donc, ils n'écoutent pas l'Europe, ils ne voient pas l'Europe, ils ne parlent pas de l'Europe. Et actuellement, on a une campagne pour être choisir le successeur à Ed Miliband, et on sera très tenté de dire peut-être non à l'immigration, mais aussi de demander, on est prêt à voter oui pour l'Europe, comme a dit la François Mitterrand dans le débat sur Maastricht, si l'Europe nous protège. Mais si la vision de l'Europe est très simplement néolibérale, mondialisation, que pour le business, que pour le marché unique, et rien pour les travailleurs, je crains qu'on peut voir, comme en France, un gauche anti-européen.
Parce que si on a Cameron qui fait campagne pour un petit oui, on risque d'avoir une sorte de réaction, d'esprit de contradiction de la part des travaillistes qui auront besoin de se démarquer du parti de Cameron.
Exact. Si vous regardez les deux partis, je l'ai décrit mon livre sur les derniers 60 ans, le Labour a passé plus des années, globalement parlant, dans le camp anti-européen. Il y a 30 ans, le Labour a fait appel dans l'élection de 1983 pour le retrait pur et simple de l'Europe. Donc, dans l'ADN du Labour, il y a pas mal des gènes anti-européens qui peuvent, je crains, faire resurface.
Alors, on aura beaucoup d'autres questions à vous poser après cette pause, notamment que se passerait-il dans ce Royaume-Uni? Est-ce qu'il y aurait des tensions avec les Écossais, avec les Irlandais et, disons, les nations qui constituent le Royaume-Uni? Mais tout d'abord, David McShane, ancien ministre européen, ancien ministre britannique des Affaires européennes, pardon, j'y parviens. Une pause avec ce point d'actualité, on vous retrouve immédiatement après.
Tour International, nous recevons Denis McShane, ancien ministre britannique des Affaires européennes, à l'occasion de la sortie de son livre « Brexit », c'est-à-dire l'hypothèse d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne après la victoire de Cameron, qui posera la question aux Britanniques l'année prochaine dans le cadre d'un référendum. Beaucoup de questions à vous poser sur cette hypothèse. Peut-être un mot par rapport à l'actualité que nous venons de voir. Encore, disons le Proche-Orient, la Syrie, l'Irak à feu et à sang. On se souvient aussi de Blair, le Premier ministre avec qui vous avez travaillé, pour l'accord qu'il avait donné à Bush d'une intervention militaire en Irak. Et on voit que la stabilisation ne s'est jamais produite, qu'on n'amène pas la démocratie forcément par les armes. Est-ce que ça reste une erreur historique contre Tony Blair?
Oui, tout à fait. Je crois que toutes les interventions du Nord, je n'aime pas le mot Occident, dont le pays majoritairement musulman dans la région, étaient des erreurs historiques. Commençons avec les Soviétiques marchant dans l'Afghanistan, et maintenant on avait l'intervention de Bernard Henri Lévy qui a fait appel à M. Sarkozy et M. Cameron pour l'intervention en Libye, qui a ouvert la brèche à le désastre total. Libye maintenant, djihad central et aussi tous les réfugiés immigrés dans la Méditerranée, et en plus dans la Syrie, on a une guerre quasiment perso-arabe. On a des éclatements et vraiment la politique du Grand Nord, de vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale dans cette région, ces derniers 10, 20, 30 ans, était désastreuse. Et je ne sais pas comment on peut remettre le génie dans la bouteille.
Blair n'a jamais reconnu d'erreur sur ce point.
Non, j'ai demandé à un grand proche de président Bush, qui aussi comme moi accepte que c'était une grande erreur. Est-ce que le président Bush peut jamais dire qu'il était, il avait tort? Et cette monsieur m'a dit non, il ne peut pas regarder dans le visage les 4500 familles qui ont perdu un fils.
Les militaires américains tués en Irak.
Et idem, je crois, pour monsieur Blair. Tout le monde, je crois, de son entourage, les grands ministres autour de lui maintenant acceptent que c'était une erreur. Mais pour M. Blair de le dire, c'est assez difficile.
L'une des conséquences...
Pour rester sur la politique étrangère, comment vous expliquez la quasi-disparition du Royaume-Uni aujourd'hui? On n'entend plus sur rien.
Bien
sûr. J'ai l'impression que M. Cameron ne s'occupe plus
absolument. Absolument. Il y a en deux mois, le grand journal allemand Süddeutsche Zeitung, grand titre, Wo ist Herr Cameron? Où est M. Cameron? Et je crois que sur l'Europe, il ne s'adresse pas. Libye, avec M. Sarkozy, est tournée dans un désastre total. Obama et lui ne sont pas sur la même longueur des ondes. On voit que Washington, maintenant, s'adresse de moins en moins en Europe. Et son parti devient de plus en plus isolationniste. Il y a des époques, je ne suis pas là pour faire une course d'histoire britannique, politique britannique, mais il y a des moments quand l'Angleterre, surtout sous les conservateurs, ont décidé... On reste tranquille, basique, dans petite barque en Angleterre, et le reste du monde peut aller faire ce qu'il veut, nous rester à la maison.
Mais parce que vous déplorez l'intervention en Libye, certains observateurs déplorent plutôt les suites, le fait que finalement le travail était commencé et pas terminé. Est-ce que vous estimez réellement qu'il fallait laisser les choses
vous voulez que je sois très très net et honnête, je suis interventionniste, j'étais là avec Kouchner et tous les gens de M. Kouchner des droits d'ingérence des années 90 en Yougoslavie, en Rwanda, mais non, j'aurais préféré même un brut comme Gaddafi, un brut comme Saddam Hussein, restons là avec un brin de stabilité. Au lieu de quoi? Des Iraniennes antisémites qui soutiennent le terrorisme ouvertement, qui pondent les gays des groupes, ou les Arabie Saoudite, c'est plus démocratique, c'est plus un pays acceptable que la Libye de Gaddafi? Non.
Est-ce que vous diriez la même chose, Denis McShane, ancien ministre britannique des Affaires européennes, est-ce que vous diriez la même chose pour Bachar el-Assad?
Malheureusement, le fait est que sur Bachar, d'abord, les religions étaient capables de vivre ensemble. On voit la montée de cet islamisme idéologique à droite, religieusement passionné, qui veut tuer tous les juifs, exterminer Israël, mais aussi maintenant exterminer, éliminer les chrétiens.
Donc vous nous dites qu'il vaut mieux certains tyrans qu'une tentative de démocratie amenée de l'extérieur.
Écoutez, je détestais le général Pinochet. Est-ce que je proposais lancer des missiles sur Santiago de Chili pour le tâcher de le bouger? Si on est prêt d'accepter totalement nos responsabilités, quand on était dans le cas de Yougoslavie, on envoyait des soldats en Kosovo pour stopper le génocide de Serbe, de M. Milosevic, oui. Mais franchement, lancer quelques petits missiles croisières de deux ou trois anciens avions britanniques ou français, ça, c'est pas de la politique internationale, c'est simplement faire un titre de temps en temps.
Denis McClain, on va revenir sur la situation donc du Royaume-Uni, notamment par rapport à l'Union européenne. L'une des conséquences de ce que l'on voit, c'est une arrivée massive de réfugiés par la mer, avec cette drame, des centaines de personnes qui trouvent la mort, qui se noient, et la proposition de l'Union européenne des quotas. Beaucoup de pays, la Pologne, la France, sont contre. Évidemment, au Royaume-Uni, ça ne passera pas non plus.
Oui, déjà, je crois que le ministre de l'Intérieur, Madame May, était le premier en ligne. Monsieur Valls, hier, j'ai vu à la télé répéter exactement ce que dit Madame May. Le grand erreur, et c'est cette erreur, c'est un fonctionnaire non élu à Bruxelles, même une quelqu'un...
Attention, vous allez être europhobe dans vos propos.
Non. Attention, même quelqu'un décent avec la meilleure volonté, mais d'aller à la tribune en demandant « vous devez accepter mon propos », ça, c'est une erreur.
Mais est-ce qu'il faut se cacher de vouloir de la solidarité entre Européens? Est-ce qu'il est normal de laisser les Grecs, les Italiens, avoir tout le monde débarquer sur les côtes et ne pas les aider?
Non. Mais il y a deux formes de solidarité. La solidarité des faits ou la solidarité de communiqués de presse. Et moi, j'aurais préféré la solidarité de faits, de travailler un peu dans les coulisses, derrière le rideau, sans chercher à demander à M. Valls ou M. Cameron ou je ne sais pas qui, que vous devez accepter ce que nous proposons. Donc, c'est une question, c'est comment on gère l'Europe. Si l'Europe doit faire toujours des gens... Je suis pro-Bruxelles, je suis pro Madame Margherini, pro M. Juncker et M. Timmermans, sont tous des amis.
Et vous déplorez une maladresse, mais sur le fond...
Oui. Sur le fond, bien sûr, on devait accepter.
Alors, est-ce qu'on peut pas avoir le courage politique de le dire, tout simplement?
Oui, moi, je suis prêt à le dire. 2000... Mon Dieu, 2000 sur 63 millions en Angleterre, 2000 sur 61 millions en France, mais c'est une blague qu'on ne peut pas les accepter. Mais, et je crois qu'on va les accepter. Mais si c'était utilisé, instrumentalisé par la Commission, malheureusement, le haut représentant, pour dire « moi, je guide la politique étrangère, la politique de l'Europe », c'est à ce moment-là une erreur.
C'est le mot « quota » qui est mal choisi?
Je crois que « quota » est toujours assez problématique. Moi j'ai honte. Dans les années 30, où les Anglais et la France et la Suisse ont refusé d'accepter les Juifs d'Allemagne. La barque est pleine. C'est un magnifique film suisse des années 70 sur exactement cette Das Boot ist voll. Et on a en Angleterre aussi. Et maintenant, on sent ça. Et chez nous, tous les immigrés, tous les gens de l'étranger qui sont venus installer chez nous sont des contributeurs nets à notre budget.
Ils ne coûtent rien.
Ils coûtent rien, au contraire. Ils apportent beaucoup. Mais trouver le courage de dire ça contre un presse xénophobe, une classe politique timoreux...
Vous venez de le faire sur ce plateau.
Qu'est-ce que vous pensez de cet argument de l'appel d'air? Que dire cela, créer un appel d'air et faire venir des immigrants? Est-ce que vous ne pensez pas que de toute façon, les immigrants, dans la situation où ils sont, ils prennent la mer de toute façon? Est-ce que cet argument a le moindre pertinence?
Non. Enfin, les gens veulent rester chez eux. Il y a une super conversation entre le roi Hassan, le dernier le précédent roi de Maroc, et Jacques Delors en 1994. Le roi ça a dit à M. Delors, « Monsieur le Président, j'ai 5 millions de paysans fermiers qui ne pensent qu'à exporter leurs tomates vers l'Europe. » Et Delors a tremblé parce que non, parce qu'il doit protéger les fermiers français, espagnols, italiens. Et le roi a dit « Non, c'est une blague. Mais je vous assure, si vous ne me laissez exporter mes tomates, dans 10 ans, on va exporter les terroristes. Exactement 10 ans plus tard, il y avait l'attentat de Atocha, la guerre de Madrid, 2200 morts, 1000 blessés. Et si on emploie l'espoir aux pays maghrébiens d'avoir une économie solide, donner à leurs enfants une chance, bien sûr, soit ils deviennent ils fuient cette misère, on devient des immigrés clandestins, quelqu'un, malheureusement, tourne vers une politique beaucoup plus militante, agressive.
Alors, Denis McShane, ancien ministre britannique des Affaires européennes, je le répète, on va revenir sur la perspective de cette question qui va être posée aux Britanniques par Cameron, il l'a promis. Que se passe-t-il cette fois, au-delà de la question la Grande-Bretagne dans le Royaume-Uni, mais que se passe-t-il si le non l'emportait à l'intérieur du Royaume-Uni? C'est la question que nous allons voir maintenant. Est-ce que, par exemple, l'Écosse ne jouerait pas sa propre partition? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, j'allais presque dire, d'éclatement du Royaume-Uni qui ne serait plus uni, le Royaume des Unis, s'il quittait l'Union Européenne?
On habite le Royaume des Unis maintenant parce que M. Cameron a joué la carte anglaise contre la carte écossaise après le résultat du référendum en Écosse. La veille, il était là, sur le seuil de Downing Street, en disant « Je veux créer une catégorie spéciale pour les députés des chambres des communes sur des affaires purement anglaises. » Donc, fini, un parlement uni avec chaque député à droit égal.
Quatre nations, quatre parlements, quoi.
On peut avoir des parlements, assemblées régionales, nationales, c'est comme dans pas mal de pays. Je crois, si, bien sûr, on passe à un non à l'Europe dans le plébiscite de M. Cameron, l'Écosse, qui va largement voter oui, va demander une séparation assez vite. Nous voulons rester un pays européen, un peu comme Danemark, ou je sais pas, Finlande, ou Suède, petit pays, mais compétent. Et les Anglais, non, vous aurez un futur différent. Ou même s'il y a un mince oui à l'Europe, mais avec une majorité des non chez les Anglais, mais une majorité de oui chez les Pays de Galles, l'Écosse, ça aussi va avancer la thèse d'une séparation.
Donc, vous comparez parfois l'Écosse par rapport au Royaume-Uni, au Québec, dans le Canada.
Oui, c'est le Québec. C'est devenu le Québec. Moi, j'étais étonné. Je connais le Québec, assez bien. C'est la
question souveraine reste présente.
Vraiment, de jour à nuit, on a passé à l'Écosse. C'est un mariage avec les Anglais datant de 1707. Bon, mariage de 300 ans, largement réussi. Il y a toujours des petites irritations chez les Écossais, mais maintenant, on a cette demande aussi plébiscitée par le peuple. Avant, on avait toujours un nationalisme écossais, mais ils ne gagnent pas de sièges au Parlement, ils ne gagnent pas le contrôle du Parlement d'Edinburgh. Maintenant, l'Écossais, il paraît, dans toutes les dernières élections, comme Irlande, il y a 100 ans, avant son indépendance, l'indépendance devait être donnée à l'Irlande. Pourquoi? Parce que les Irlandais élisaient à l'époque que les députés, les représentants demandant cette séparation, cette indépendance.
Qu'est-ce qui s'est passé
Voilà, c'est extraordinaire. L'élimination de 50 sièges Labour, c'est le bastion des travaillistes écossais. Et maintenant, ils sont tous des nationalistes.
Tout ce qui s'est passé, en fait, dans l'entre-deux, entre le moment où ils ont voté non à l'indépendance et le moment où ils votent massivement pour le parti indépendantiste.
Parce que M. Cameron, comme chef, à mon avis, ok, je suis partisan, acceptons ça. Ah, oui. Mais il a au lieu de dire j'arrive avec l'huile pour verser, je vais poncer les blessements, non, et il a dit maintenant on passe à un Angleterre pour les Anglais, un Angleterre contrôlé que dans les intérêts anglais, un Parlement divisé entre les députés première classe et les députés écossais deuxième classe. Et ça a tellement choqué. Donc, le prochain échéance de vote, élection générale, 8 mois plus tard, ils ont fait le bras d'honneur à les élites londoniennes. Et je crains, pour revenir sur la question de le référendum, que le vote anti-élite est maintenant passionnant dans tous les pays, quand les chefs du pays, les élites de Paris, de Londres, de Dublin, de Stockholm disent « il faut voter dans cette direction sur l'Europe », le peuple dit « on ne vous aime pas et on va voter contre votre
d'ailleurs,
avis ».
D'ailleurs, si on élargit, que se passerait-il, puisqu'on pose la question pour le Royaume-Uni dans la mesure où David Cameron l'a promis, à votre avis, si on posait la question dans d'autres pays, peut-être en France ou dans d'autres pays, est-ce que le oui l'emporterait de la même façon ?
Disons, je me pose la question toujours, si jamais il y avait des référendums en Allemagne ou ici sur l'entrée de l'introduction de l'euro, quel aurait été le résultat ? Et moi, je ne sais pas, j'adore maintenant la petite querelle familiale chez le Front National, le papa et la fille, le Pen.
Et
c'est exactement le chez nous, les équipes.
Le
parti nationaliste identitaire.
Ils se déchirent aussi
c'est formidable. Ils insultent, très amusant pour moi. Mais quand même, Marine Le Pen, assumons qu'elle soit vainqueur de cette querelle familiale, si en Angleterre on aura un non, bien sûr, elle va lancer des centaines
nous
de milliers
exactes
de militants pour demander un référendum. Et la question d'un référendum dans pas mal des pays européens,
elle veut déjà sortir de l'euro, de la monnaie.
Exact, devient de haute actualité. C'est toute la l'Europe est centrifuge pour le moment. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas assez d'espoir.
Il y a un soupçon de reprise, justement. La question que je voulais vous poser, c'est si cette reprise se confirmait, est-ce que ce ne serait pas un argument en moins pour sortir de l'Europe ?
Absolument, je dis toujours à des amis continentaux, donnez-moi 5-10 ans de croissance à 3% et je vous donne un Angleterre pro-européen. Donc à vous, à soutenir M. Macron, M. Valls, les grands réformes en France et qu'à Bruxelles, de retrouver le chemin de croissance.
Monsieur McShane, comment vous pouvez concilier un pays dont la capitale est devenue, je pense, une des villes les plus mondialisées du monde et un pays qui se replie sur soi, voilà Londres qui est devenu une sorte de capitale mondiale, des capitaux, de la culture, il y a une centaine ou 150 nationalités représentées, etc. Et un pays qui se replie sur soi et au point que ce repli sur soi est en train d'atteindre ses différentes composantes, c'est-à-dire les Écossais se replient sur eux, les Anglais se replient sur eux, etc. Comment ça va fonctionner ? Londres va faire sécession un jour, va réclamer une sorte de statut spécial.
C'est déjà
Londres a besoin des étrangers, par exemple, pour travailler.
Exact. Le maire de Londres, Monsieur Boris Johnson, archi-eurosceptique, anti-européen, mais aussi insiste que Londres doit être ouvert aux immigrés. Donc, pour défendre sa langue, il doit être européen, international. En effet, le Royaume-Uni, on a 4 nations, Angleterre, l'Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord, mais une 5e cité-État, Londres. C'est une mégalopolis qui n'a rien à voir avec le reste d'Angleterre. L'Écosse est orange, la couleur des nationalistes. L'Angleterre est bleue, couleur des conservateurs. Londres est rouge, couleur des travaillistes. Et le moment venu, pour Londres, que les restes d'Angleterre décident de sortir l'Union européenne, je ne sais pas. On va entrer dans une période de chaos, confusion, très très difficile, qui peut-être à la fin, cette peur-là va pousser suffisamment des gens de voter pour rester dedans. Je ne sais pas.
C'est compliqué pour votre parti, pour les travaillistes, qui sont obligés de retrouver une stratégie maintenant pour rebondir.
Ah bon ?
Parce que
ça c'est chouette que la gauche retrouve une stratégie. C'est la première fois en Europe, ouais, c'est bon.
Non, mais comment vont-ils faire vu qu'il y a tant de différences
écoutez,
au Royaume-Uni selon les régions ?
C'est très très difficile. On passe lentement à une élection de nouveaux leaders qui sera décidée au mois de septembre. Et déjà, les candidats sont en lice et ils commencent à se profiler un peu sur l'Europe, pas trop. Mais le moment venu, et il se peut pour gagner les voix des militants du parti, ils vont demander l'impossible, que l'Europe devienne fédération socialiste, sociale, syndicalisée, etc. Et après, on va voir. Mais
du coup, est-ce qu'il y a une vision d'ensemble sur ce parti ? Est-ce qu'il doit se recentrer ou est-ce qu'il doit se renforcer sur sa gauche ?
pour le moment, tous les candidats principaux reconnaissent qu'on ne peut pas gagner que de la gauche. Il faut avoir une offre aux gens d'aspiration, ambitieux, centriste si vous voulez. Mais ça, c'était reconnu par tous les grands leaders de la gauche moderne, Billy Brandt, Felipe González, Tony Blair. Mais toujours, on a le tac-tac-tac des gens qui disent « Ah non, si on était vraiment socialiste, si on était vraiment gauchiste, tout le monde commence à voir le monde comme nous le voyons. »
Denis McShane, il y a peu de gouvernements de gauche aujourd'hui installés en Europe, il y en a relativement peu. Vous êtes en France, merci de nous avoir rendu la visite, d'être venu spécialement à Londres. Comment voyez-vous la situation des socialistes français, et notamment de François Hollande, impopulaire, très impopulaire?
Disons que... Je vois qu'il est en train d'avoir une meilleure deuxième moitié de son quinquennat que le premier. On a laissé oublier le taxe sur le 75%.
Et 75% aussi, d'imposition pour ceux qui gagnent plus d'un million d'euros.
Il y a aussi une reprise de croissance. Premier quartier, bon, il faut trimestre, il ne faut pas trop exagérer. La France a deux fois la croissance de l'Angleterre des Allemands, qui est pas mal. J'admire le bouquin de Laurent Geoffrin, directeur de Libération, le réveil de la France. Je n'étais jamais un décliniste, c'est pessimiste.
Oui, pour ceux qui disent la France va mal, c'est foutu, etc.
Vous pensez qu'il va arriver à redresser la courbe,
J'espère. Si son équipe, le plus grand danger pour François Hollande, c'est pas Nicolas Sarkozy, c'est peut-être Alain Juppé, mais c'est une autre question, c'est son propre parti, qui, ou partie de son parti, qui n'accepte pas que la gauche moderne, social-démocrate, Steve Willy Brandt, Felipe González, doit réformer en permanence, pas la révolution une fois, mais réformisme permanent. Ça n'a pas changé. Donc c'est à eux à qui, c'est que le Parti socialiste qui peut se faire trébucher si pas tomber.
Mais Christophe Ayad, Le Monde.
La gauche moderne, elle a été incarnée beaucoup par Tony Blair, Gerhard Schröder. Et puis, on a vu leur destin et la façon dont ils ont quitté le pouvoir et se
c'est
sont
terrible, ils ont gagné, Tony Blair a gagné 3 élections de suite. Ah bah, quelle gauche horrible. On a eu la meilleure croissance sous Blair que le 10 ans avant, le 10 ans après. Gerhard Schröder aussi a se sacrifié en restructurant l'industrie allemande. Et maintenant, l'Allemagne est riche, même si les Allemands ne sont pas riches. Et donc, Mme Merkel a hérité de Gerhard Schröder une économie beaucoup plus performante que Schröder a hérité de Helmut Kohl. Est-ce qu'elle est en train de le gaspiller en gardant tous ses euros sur son matelas au lieu de les investir? Je ne sais pas.
Aujourd'hui, ne se posent pas la question des dépenses qu'ils ont faites au temps où ils étaient au pouvoir, du fait que maintenant les déficits sont tels que le service de la dette pèse tellement sur le.
Bon, il y a deux choses. J'ai écrit
l'éducation.
Non, ça c'est sur Gordon Brown. Je peux vous montrer des papiers où j'ai écrit réduire les dépenses, réduire les impôts. Monsieur Brown, bien sûr, c'est un message qui n'est pas très bien passé. Mais ce qui est important, tous ces déficits ont explosé quoi? Grâce à la crash du banquier américain. Mm-hmm. Donc, c'est la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et le reste ont dû. Ce qui est intéressant, que Monsieur Cameron, on a deux fois le dette déficit que la France. Monsieur Cameron n'a rien résolu. Il a donné à lui-même, il a hérité de lui-même, une balance économique désastreuse. Et maintenant, pour réduire ses déficits, lui doit imposer des coupes ultra sauvages. Et ce que je crains, pour revenir sur le référendum, très vite, il va devenir très impopulaire et voter pour ce que un chef de gouvernement très contesté, très impopulaire. Déjà, là, toutes les municipalités Tory crient larmes aux coupures qu'ils lui proposent. Très difficile pour un chef si impopulaire de faire passer son référendum.
Denis McShane, ancien ministre britannique des Affaires européennes, qui est venu sur le plateau d'International aujourd'hui. Merci d'avoir été notre invité pour Brexit, retenons ce mot, sur une possible sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pour l'instant, c'est qu'une hypothèse. Nous verrons avec le référendum. Merci d'être venu sur ce plateau.
Merci.
Nous verrons si c'est à nouveau une prophétie ou une triste réalité. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira avec ce référendum. Excellent suite de programme sur les antennes de RFI, de TV5 Monde. Naturellement, restez attentifs à la lecture du Monde, avec notamment son